Vous êtes sur Médien, merci à vous de votre fidélité. Et aujourd'hui, on fait le point également sur l'épilepsie. C'est cette maladie chronique du cerveau assez répandue et pourtant très mal connue. Pour en parler avec nous, docteur Jamila Walit, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes spécialiste en neuropsychologie. Merci beaucoup de répondre présent à notre invitation sur Médien.
Ça me fait un grand plaisir.
Comment peut-on définir l'épilepsie ?
Il y a une différence entre l'épilepsie comme maladie, comme syndrome,
oui,
et la crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie, c'est un nombre de millions de neurones qui s'activent d'une façon synchronique.
D'accord.
Mm-hmm. Et il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a des épilepsies partielles, les épilepsies généralisées. Les épilepsies généralisées sont... tout le monde les connaît, c'est-à-dire il y a des crises tonico-cloniques, la personne perd connaissance avec des convulsions, révulsions des yeux, on appelle crise grand mal. D'accord.
D'accord.
Et c'est, le problème se trouve face aux épilepsies partielles.
Mm-hmm.
Les épilepsies partielles ne sont pas très bien connues, c'est-à-dire surtout chez les enfants. On retrouve parfois des petites absences qui sont confondues avec des troubles de l'attention. Généralement, c'est les profs,
oui,
qui mettent en évidence, qui alertent les parents, mmh, en disant « voilà, votre enfant ne prête pas attention en classe ». Alors, des petites absences comme ça. Il y a des épilepsies. Pourquoi on l'appelle partielle ? Parce que ça touche une partie du cerveau.
D'accord.
D'accord. Et on les retrouve généralement chez les enfants.
D'accord.
Il y a plusieurs types. Comme je vous ai dit, parfois des pertes des urines, une oncoprésie, des pertes fécales. Donc, il y a parfois, au niveau que de l'écriture, l'enfant est diagnostiqué comme dyslexique ou bien dyspraxique, les 10 en général, alors qu'il y a derrière ce syndrome, ce gros syndrome qui est l'épilepsie. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant face à ces épilepsies partielles. Parce que le grand mal, tout le monde, on aperçoit, ça impressionne. D'accord.
D'accord.
Chez l'adulte, l'épilepsie survient tardivement chez l'adulte, c'est un mauvais pronostic. C'est-à-dire, mmh, il faut faire attention. Pourquoi ce monsieur ou cette dame n'a jamais présenté des crises d'épilepsie jusqu'à un moment donné de sa vie? Il peut y avoir derrière des causes tumorales, des malformations cérébrales. D'accord. Donc, il faut bien prêter attention lorsqu'il s'agit de crises tardives chez l'adulte.
D'accord.
Voilà, si je vous ai décrit un tout petit peu globalement.
D'accord, parfait. Alors, quels seraient justement ces symptômes, ces premiers signes qui devraient nous alerter alors qu'on soit adulte ou lorsqu'on parle également d'enfant ?
Alors, lorsqu'on parle d'enfant, je vous ai décrit un tout petit peu. Parce que l'enfant ne prête pas attention,
oui,
va mal à l'école, il y a des cyanoses péribuccales, son visage change de teint, des dérobements de jambes, parfois l'enfant tombe trop. On a l'impression que l'enfant tombe, mais il a des maladresses, lâchage d'objets. On peut suspecter à ce moment-là l'épilepsie. Chez l'adulte, pareil, le syndrome épileptique diffère de chez l'enfant. Et chez l'adulte, il survient lorsqu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit, c'est généralement les crises généralisées. Il y a parfois la personne se plaint de mauvaise vision, des vertiges, des pertes de connaissances subites. D'accord ?
Mm-hmm.
Il faut vraiment faire la différence entre... Parce que le syndrome épileptique chez l'enfant, il ne faut pas qu'on le généralise.
Docteur Walid, je rappelle que vous êtes spécialiste en neuropsychologie. Quelles seraient ces personnes à risque, donc ?
À les personnes à risque, donc, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent.
D'accord.
Parfois, les souffrances néonatales chez l'enfant.
D'accord.
Les souffrances, les conditions de la périnatalité. D'accord. Chez l'adulte, est-ce qu'il n'y a pas eu... une encéphalite peut-être, méningite, il y a beaucoup de maladies virales, de maladies bactériennes qui peuvent attaquer le cerveau, par exemple des hydrocéphalies qui surviennent tardivement aussi, qui peuvent provoquer une pression intracrânienne qui peuvent provoquer des crises. D'accord, donc mm-hmm, ce genre, C'est ça ce qui te donne des traumas crâniens. Parfois, il y a des gens qui ont fait des accidents. Donc, après un accident, après une opération cérébrale, parfois des petites opérations lorsqu'il y a une blessure à l'intérieur du cerveau, automatiquement, l'activité électrique cérébrale va changer.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'hérédité? Est-ce que c'est héréditaire?
Oui, c'est très important que vous avez rappelé ça. Oui, il y a le facteur hérédité aussi qui est très important. Là, il y a, c'est pour ça qu'on cherche dans l'anamnèse, est-ce qu'il y a des antécédents, même de second degré, des grands-parents, des tantes? Il y a le facteur hérédité qui est très important.
Comment se pose le diagnostic quand on arrive chez vous, docteur?
C'est les symptômes cliniques et le gel électroencéphalogramme qui est fait par le neurologue, bien évidemment.
D'accord. Alors, quels seraient les risques et les séquelles après les crises d'épilepsie, docteur Walid?
Alors, le médecin traitant, bien sûr, quand il trouve une activité cérébrale non normale au niveau de l'électroencéphalogramme, bien sûr, il va démarrer le traitement, d'accord?
Oui.
Et les séquelles, moi, je suis neuropsychologue, je fais une évaluation pré et post, c'est-à-dire pré-traitement et post-traitement.
D'accord.
Post-traitement, c'est-à-dire si la personne adhère au traitement, bien sûr, il va s'améliorer. Lorsque de plus en plus, il n'y a pas de crise, de plus en plus, le cerveau va marcher bien.
D'accord.
Et de plus en plus, la personne refuse de prendre un traitement parce que, comme vous savez bien, il y a des gens qui disent qu'ils sont ensorcelés. Il y a aussi ce genre de personnes qui te disent, voilà, il y a l'ensorcellement, la possession. Ils n'adhèrent pas au traitement de leur médecin traitant. Mmh. Et alors, à ce moment-là, le cerveau devient chaotique.
D'accord.
Et le pronostic, bien sûr, et l'épilepsie généralisée, si n'est pas bien prise en charge, elle peut être fatale aussi. Mmh. Il y a des crises grand mal qui tuent la personne.
D'accord. Alors justement,
c'est sérieux quand même l'épilepsie.
Bien sûr, c'est sérieux. Ouais. Et justement, on y arrive, ce traitement, est-ce que c'est du cas par cas? Comment ça se traite finalement?
Bien sûr, le neurologue, il va savoir traiter selon le cas, parce que le traitement qu'il va donner au niveau des épilepsies partielles, ce n'est pas le même traitement qu'il va donner pour des épilepsies grand mal. Il va évaluer quel est le degré de l'épilepsie, quelle est l'intensité, la fréquence, et aussi sur le plan électrique, qu'est-ce que ça donne.
D'accord.
Et en fonction de ça, il va donner un traitement adéquat pour une personne ou une autre. La nouvelle tendance, tout le monde parle des opérations. Et l'opération, ça se fait pour des épilepsies généralisées. Il y a des chirurgiens très compétents pour ça. Mais évaluons les séquelles qui va rester, qui va donner l'opération après. C'est-à-dire l'opération, elle va séparer un cerveau d'un autre. Mmh. Quelles seraient les séquelles qui va laisser l'opération.
Oui.
Et bien sûr, la première de préférence, c'est un traitement pharmacologique.
Alors, que faut-il éviter? C'est une question qui revient très souvent pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce qu'il y aurait des choses à éviter, docteur Walid?
La sensibilisation et la prévention, comme je dis toujours, parce qu'on mène des campagnes de sensibilisation aussi au niveau de l'épilepsie. Pour les mamans, par exemple, enceintes, pourquoi je parle trop de l'enfant, c'est là où tout commence. Pour avoir une société saine, il faut que la maman soit saine aussi. C'est pour ça qu'on a la classe des mères. C'est-à-dire, la femme doit faire avant de tomber enceinte, il faut qu'elle fasse des tests prénuptiaux, comme on dit, pour ne pas avoir des problèmes infectieux qui peuvent endommager le cerveau du bébé, surtout durant l'accouchement. Parfois, les femmes ont peur d'accoucher par césarienne. Et donc, lorsque le médecin l'impose, non, c'est parce que le médecin veut me faire une césarienne pour l'argent, c'est pas ça, parce que c'est indiqué. Parfois, les enfants, le fœtus est en position de siège, parfois le placenta prévia. Si le médecin te dit, voilà, il faut une césarienne, c'est pour éviter une problématique au niveau de l'accouchement. Et s'il y a une problématique, par exemple, des cyanoses ou des souffrances néonatales, forcément, là, dans la plupart des cas, ça donne des épilepsies.
D'accord.
Donc, il faut protéger les mamans. Les mamans qui vont nous donner des nouveau-nés sains.
D'accord.
C'est l'intention. Et pour l'adulte, un bon sommeil, une alimentation bien équilibrée, parce que avec ses téléphones, avec ses médias, la personne épileptique reste branchée au téléphone jusqu'à 2h, 3h du matin. Comment veux-tu laisser ton cerveau reposer? Alors, en plus du traitement que le neurologue donne au patient, il faut que le patient respecte aussi les indications médicales. Le bon sommeil, c'est très important. L'alimentation, d'accord, très très important. L'exercice physique aussi.
Docteur Jamila Walid, je rappelle que vous êtes spécialiste en neuropsychologie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Médien.
Merci beaucoup à vous.
Et c'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com.